Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Merci d'écouter le magazine Okapi Service et ravi de vous retrouver dans cette deuxième partie de l'émission et merci à vous tous qui venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Nous parlons, c'est la chronique électorale aujourd'hui. Nous allons parler de l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles de la CENI. Eh bien, la Commission électorale nationale indépendante a lancé depuis le mois d'avril dernier la grande opération d'actualisation des cartographies opérationnelles dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo en prévision des prochaines élections prévues en 2023. Cette opération se poursuit sur terrain et elle est en sa phase de formation du personnel au niveau des antennes de cette institution d'appui à la démocratie située dans les villes et dans les 145 territoires de la République. Comment se déroule le programme d'actualisation ou cette opération d'actualisation des cartographies de la CENI sur l'ensemble du territoire national? On aura des réponses tout à l'heure avec Monsieur Joseph Senda. Il est directeur adjoint chargé des suivis des opérations à la CENI. Vous voulez participer à cette émission, composez le 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Okapi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Okapi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
Bien, comment se déroule l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles de la CENI? Nous recevons à présent Monsieur Joseph Senda, directeur des opérations à la CENI. Bonjour Monsieur Joseph.
Bonjour Monsieur Jody.
Bienvenue dans cette émission.
Merci beaucoup Monsieur Jody.
À ces jours, comment évolue l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles?
Merci beaucoup pour la question. La CENI a lancé cette opération depuis le 13 ou 14 juin à partir de la ville de Kinshasa. D'ici là, à partir de demain, nous clôturons l'opération, ou du moins les premières équipes qui avaient déjà commencé le travail vont devoir remonter vers les antennes. Donc à partir de demain, c'est déjà les débuts de la fin de l'opération de cartographie. C'est pour vous dire que globalement les choses se passent très bien. Les petits problèmes, nous en étions déjà informés, nous étions déjà au courant qu'il y aura des petits problèmes à gauche, à droite. Mais globalement, les choses se passent très 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 bien sur terrain.
Bien, et peut-être on peut aider certains auditeurs à comprendre qu'est-ce qu'on entend par cartographie électorale.
En fait, on va aller de sorte à ce que les gens comprennent ce que c'est. Lorsque nous commençons à délivrer les cartes, les gens vont quelque part chercher leurs cartes, n'est-ce pas? Dans une école du quartier, dans un centre de santé, parfois même dans une cabane pour ceux qui habitent les milieux ruraux. Ils peuvent se poser la question de savoir comment expliquer que nous soyons arrivés dans cette école-là où on va chercher la carte d'électeur. Donc pour qu'on arrive justement à trouver les endroits où les gens vont aller chercher leur carte d'électeur, il y a ce travail que nous faisons maintenant, que de manière un peu scientifique on appelle cartographie des centres d'inscription. Mais pour le commun des mortels, nous voulons bien identifier les endroits où nous allons recevoir les électeurs pour qu'ils obtiennent une carte d'électeur. C'est le travail que nous faisons. La dernière version, la dernière édition remonte à 2016-2018. Et puis il y a eu les élections à la fin de l'année 2018. Donc 5-6 ans après, on n'est pas sûr que les mêmes écoles qui nous avaient reçues sont viables aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut vraiment cette révisitation-là, pour que nous puissions avoir une photographie de la situation réelle sur terrain. Et puis, dans l'entretemps, il y a beaucoup d'électeurs qui se sont ajoutés. Les mineurs d'hier sont devenus de nouveaux majeurs. Donc, la demande est forte. Il faut donc anticiper et éventuellement recueillir les besoins de ceux qui nous reçoivent, c'est-à-dire les chefs de groupement, les bourgmestres. Voilà pourquoi il a fallu bien actualiser notre cartographie en allant justement vers nos partenaires et nos collaborateurs les plus proches, c'est-à-dire l'administration publique, bien sûr, avec à la base les chefs de groupement en milieu rural et les bourgmestres en milieu urbain.
Bien. Les personnes qui travaillent, disons, les préposés à la collecte, sont-ils déjà dans les lieux où ils doivent se rendre?
Tout le monde, les 9000 sont déjà... Les 9000
sont au nombre des 9000.
Nous avons largué 9000 préposés dans 5910 groupements et 313 communes. Tous, comme je l'ai dit, depuis le 14 juin, le mouvement a commencé par Kinshasa. Les derniers à être déployés, c'était autour du 28 juin, quelque part dans un de nos territoires. Donc pour le moment, nos préposés, certains sont déjà de retour. D'autres viennent de commencer et d'autres sont en train de terminer le travail. Donc voilà les trois catégories. Il y en a qui remontent déjà vers les antennes déposer les données collectées. Il y en a d'autres qui viennent de commencer et il y en a d'autres qui sont en train de terminer et qui vont devoir remonter aussi vers leurs antennes pour que les différentes données récoltées sur terrain remontent à Kinshasa pour que nous produisions à la fin la cartographie les cartographies opérationnelles.
Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont collecter exactement comme information?
La première chose, d'abord, ils se présentent chez l'autorité qui les accueille, comme je l'ai dit, soit les chefs de groupement, soit le bourgmestre. Bien sûr, ils présentent leur civilité, ils présentent l'objet de leur visite. Alors, ils commencent à travailler avec ou le chef de groupement ou le bourgmestre. Deux principales tâches à ce niveau-là. Nous devons harmoniser les villages, nous devons harmoniser les anciens sites qui nous ont accueillis. Harmoniser veut dire que nous devons arriver à avoir la même nomenclature des villages ou des quartiers, suivant qu'on est en milieu rural ou en milieu urbain, parce que en milieu rural, le village, c'est une adresse électorale très très importante. Il faut que nous nous rassurions que nous avons le même nombre et le même nom des groupes de villages que compte un groupement donné. Après ça, nous allons nous rendre compte si les centres d'inscription qui ont fonctionné à l'édition passée peuvent encore nous recevoir aujourd'hui. Et trois, demander éventuellement si on a un besoin supplémentaire. Ensuite, nous prélevons les coordonnées géospatiales de chaque village, de chaque lieu habité, de chaque centre d'inscription, de chaque établissement scolaire, de chaque centre de santé, pour que nous ayons un lot des sites éligibles à l'érection des centres d'inscription. Donc ça, c'est le travail que le préposé est appelé à faire en milieu rural ou en milieu urbain. Bien sûr, nous nous rassurons aussi du type des réseaux cellulaires, parce que nos transmissions de données se font par réseau cellulaire. On ne peut pas envoyer des machines adaptées, je cite au hasard, comme ça je peux faire la publicité, quoi que ce soit, à un réseau, alors que ce réseau-là ne sert pas cet espace-là. Donc nous devons nous rassurer que tel espace est servi par tel réseau, pour que nous nous rassurions que après le travail, les données vont remonter facilement ici à Kinshasa.
Par téléphone?
Non, nous avons un système de transfert de données. Donc il faut que nous nous rassurions que nos VSAT peuvent fonctionner facilement, tous les moyens que nous utilisons peuvent facilement fonctionner parce que il y a une couverture cellulaire appropriée.
Et chaque préposé utilise quel matériel?
Chaque préposé a un smartphone comme un Android, mais dans lequel nous avons embarqué des informations relatives à l'espace qui va le recevoir. Donc il arrive quelque part, il a la facilité de remonter la liste de villages d'un groupement donné. Je suis dans un groupement qui s'appelle Jodi Kachama. Je remonte les informations dans mon Android et je suis en présence du chef de groupement et je commence à échanger avec lui. Il a été dit que chez toi, il y a tel village. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je reconnais ce village-là. Je ne le reconnais pas. Je le reconnais, mais il ne m'appartient pas. Je le reconnais, il ne s'appelle pas sous ce nom-là. Ou carrément, c'est un village qui est en conflit entre deux groupements. Et alors, il s'est produit un travail d'harmonisation en ce moment-là. Ensuite, il fait remonter les informations sur les sites qui ont servi à l'enrôlement à l'édition antérieure. Et là aussi, on procède de la même manière. Est-ce que ce site est encore viable ou pas? Ou pas, oui, il est viable, on le retient. Celui-là, non, c'est une école qui a été emportée, ok. L'école a été emportée, elle sera remplacée par quelle autre école? Le chef de groupement lui dit à tel endroit, et puis le chef de groupement lui dit, c'est vrai que nous avions 200 ou 300 d'inscriptions à l'édition passée, mais nous pensons que nous pouvons avoir 2. Ah ok, vous avez besoin des 2, pourquoi? Oh, parce que un village est né de tel côté, et il n'est pas facile à cela de venir, parce que vous avez oublié qu'il y avait une rivière que devraient traverser les électeurs chaque fois pour rejoindre un centre d'inscription, il faut bien qu'il y ait un centre de l'autre côté de la rive. Ce sont des informations qui justifient l'ajout des centres d'inscription. Donc c'est pratiquement ça, les informations que le préposé tire, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Ça nous permet, à la fin de fin, au niveau de chaque groupement ou de commune, d'avoir ces informations-là. Quelles sont les sites éligibles, ce sont les établissements scolaires et les centres de santé dont on aura prélevé les coordonnées géographiques. Quels sont les villages ou les quartiers de ce groupement ou de cette commune-là? Nous les avons déjà au départ. Et quels sont les centres d'inscription qui ont fonctionné à l'édition antérieure? Nous les avons. Quels sont les réseaux cellulaires qui fonctionnent? Est-ce qu'il y a des phonies? Est-ce que toutes ces informations-là, nous les avons pour pouvoir planifier l'opération de révision des fiches électorales?
Voilà. Alors, après cette opération des collectes des données, quelle sera l'opération suivante?
C'est ce que je dis. Nous devons finalement produire un répertoire des centres d'inscription qu'on peut géolocaliser, qu'on peut présenter sur une carte, si vous voulez bien.
Donc, nous devons... actualisé.
Un répertoire actualisé, principalement des centres d'inscription, avec toutes les informations connexes dont je viens de parler. On peut bien le présenter sous forme d'une liste, tout comme on peut présenter sous forme d'une carte, de sorte à ce que n'importe qui soit à mesure de situer une situation. Si jamais quelqu'un téléphone au président de la CENI pour lui dire, voilà, il se passe telle situation à tel endroit, à partir de la carte qu'il a dans son bureau, il sait dire, voilà, la situation est à tel endroit, et on peut évaluer la distance de ces CI par rapport à notre antenne, par exemple, et quel moyen il faut pour qu'on le secoure en temps de besoin. On peut voir les centres d'inscription qui seraient malheureusement non loin de camps de rebelles et consorts. On se dit, celui-là, il est plus en insécurité, il faudra qu'il y ait une intervention. Donc, il y a bien des choses que l'on peut faire à partir de son bureau dès lors qu'on a la possibilité d'avoir devant soi la carte des centres d'inscription. Donc, ça, c'est quelque chose de très important pour nous, pour les planificateurs des opérations électorales.
Bien, nous parlons aujourd'hui de l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles de la CENI. Vous avez des questions et préoccupations? Appelez au 081 890 63 94. On va accueillir les auditeurs dans quelques instants.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Capi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Capi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
Actualisation des cartographies opérationnelles de la CENI. On en parle aujourd'hui avec M. Joseph Senda, qui est le directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante. Deux auditeurs en ligne, Ben depuis Bounia et Maître Gaston, nous appellent de Kinshasa. Ben de Bounia, bonjour et quelle est votre question?
Oui, bonjour Radio Capi. Je vous appelle, comme vous l'avez dit, à partir de l'Itourie, dans la province, donc à Bounia. Merci beaucoup. Les sujets, moi-même, je suis d'abord les préposés pour cette activité. Et je remercie d'abord la CENI, pour la formation. Ils ont organisé une très bonne formation pour nous et la formation était vraiment à la hauteur de nos attentes. Et je dois rappeler ici que je suis même affecté dans les chefferies de Mabé du Bidi. Donc, chef Lié Mako, je suis dans le groupement de Kona Moussaba. Donc, il y a un petit souci dont nous avons rencontré sur terrain. Je voudrais partager avec l'invité sur plateau, je ne sais pas si il me casse. Allô?
On vous écoute.
Ouais, d'accord. En tout cas, la CENI avait prévu quelque chose pour les chefs de groupement avec qui les préposés allaient se mettre d'accord ou bien harmoniser pour qu'ils fassent bien son travail. Et quand nous sommes arrivés sur le terrain, on avait raconté certaines difficultés qui ne nous avaient pas permis de bien travailler. Parce que, imaginez, nous sommes dans les villages, dans les milieux un peu reculés, où vous arrivez, où il n'y a pas même les militaires, il n'y a pas de policiers, donc c'est une zone rouge où vous ne voyez aucun militaire, aucun policier pour vous assister. Parce que, durant la formation, la CENI avait dit de demander le soutien sécuritaire auprès des chefs de groupement qui peut recourir soit à la police ou soit aux éléments de part de ceux qui sont dans les groupements ou dans les villages. Mais ce n'était pas le cas là où nous étions affectés. C'était vraiment un grand problème. Imaginez, nous sommes arrivés dans un groupement où il n'y a pas de policiers, pas de forces armées. On devait faire face à des groupes armés qui font la loi là où nous étions affectés. Et quand on remet l'enveloppe qui est la CENI avait prévue pour les chefs de groupement, en tout cas, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Je ne sais pas, pour moi, j'avais une proposition à faire à la CENI. Peut-être que pour les autres activités, ou soit que comme les activités sont encore en cours, en tout cas, la CENI doit bien faire ce travail à ce niveau-là, de façon que quand nous arrivons sur terrain et que vous remettez l'enveloppe aux chefs de groupement, et on devait travailler avec les chefs de village et aussi, de l'autre côté, réclame leur enveloppe, la sécurité réclame l'enveloppe. Or, la CENI nous a exigé de demander le soutien sécuritaire. En tout cas, ce n'était pas facile. À l'heure actuelle, il y a même des collègues, des préposés, qui font des retours sur terrain suite à des difficultés que nous avons rencontrées au terrain. Vous pouvez imaginer, dans les groupements où il n'y a pas les chefs de groupement, les chefs de groupement se retrouvent dans les villes. Et dès que vous les racontez dans les villes, vous essayez d'harmoniser et qu'ils vous disent « j'ai un délégué que j'ai laissé là, vous arrivez là-bas, les délégués vous demandent encore son enveloppe ». Or, la CENI n'avait pas prévu des enveloppes, ou soit pour les représentants, ou soit pour les chefs de groupement. Ce n'était pas facile. En tout cas, on a eu du mal à travailler comme la CENI avait donné la formation. Donc, prochainement, s'il y a des types d'activités, ou soit pour les règles des activités, la CENI doit très bien faire aussi le travail de sensibilisation. Imaginez, nous sommes arrivés dans les documents où les concernés, les gens qui sont concernés pour les élections prochaines, ne sont pas au courant des activités que nous allons faire dans les documents. En tout cas, à ce niveau-là, la CENI doit revoir sa stratégie. Donc, sur le plan de sensibilisation, et l'enveloppe qu'ils ont prévue pour les chefs de groupement et les éclaireurs. En tout cas, ça ne nous a pas permis.
D'accord.
De bien
merci,
travailler.
Merci beaucoup,
puis,
Ben.
Avec moi, s'il vous plaît, je dis, j'ai avec moi les contrats ici. J'ai avec moi les contrats des préposés des collègues. Je prends l'article 9 où on a dit le présent contrat est établi à double exemplaire. Donc, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien. Mais la CENI nous a donné un seul exemplaire dont nous avons signé et on les avait retournés. Nous n'avons aucun exemplaire de notre contrat. Je ne sais pas, parce que c'est bien stipulé dans l'article qui date dans le contrat. C'était ça ma préoccupation. Merci beaucoup.
Bien, merci. On va accueillir Maître Gaston de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute.
Bon, je suis un peu sur le plan juridique. Je voudrais un peu avoir une idée. Parce qu'il arrive des fois que les gens se méfient de la CENI, voire de ses agents. S'il arrivait qu'un bagarre surgit lorsque les gens de la CENI passent et qu'il y ait des coups, des blessures, des destructions comme ça de la part des agents de la CENI, qui va répondre civilement en qualité de... Parce qu'il m'a dit qu'ils sont leur proposés. Est-ce que la CENI est censée répondre civilement dans
Mais qui doit aller se battre? Les agents de la CENI vont se battre.
Non, mais vous en faites pas. Vous en aurez les informations que je vous donne. Je suis arrivé, mais j'ai dit si l'agent de la CENI commet une infraction lors de sa mission, il va répondre civilement. Là, c'est la première réaction. Parce qu'il y a des points là où on sait même on veut pas sentir la CENI. Bon, je veux aussi avoir une idée sur l'actualisation de la cartographie en soi. Est-ce que chaque cycle électoral, il faut actualiser la cartographie. Et cette actualisation apporte quoi de nouveau? Par exemple, en 2011, on a vu la vaste opération s'est passée. On sait tous les villages, on sait tous les groupements. Et je ne pense pas qu'à la RTK, ici, il y a d'autres villages qui se sont créés au groupement. Pourquoi ne pas se contenter des données antérieures et gagner l'État dans d'autres aspects? Et je ne pense même pas que les timings qui se sont fixés, c'est un accord du calendrier électoral, non? Chose qu'on a inventé comme ça. parce que le calendrier n'est pas encore. Je pense qu'on peut s'inspirer d'autres pays aujourd'hui qui n'ont pas intérêt à tout cycle électoral de revoir leur cartographie. Ça nous coûte, ça nous prend du temps, ça nous coûte même de l'argent. Moi, je pense pas que c'est vraiment intéressant. Il faut qu'on fasse un effort, que la cartographie qui n'a pas subi de modifications, on puisse travailler en fonction de cette cartographie-là pour gagner le temps.
Bien, et, merci.
Pour vous dire, il peut y avoir des infractions et la CENI sera responsable civilement.
Merci, Maître Gaston. Jean, vous êtes à Arou. Bonjour. Jean, vous êtes en ligne depuis Arou. Bonjour. Il n'est plus là. Monsieur Joseph Senda, vous la parole.
Merci, merci beaucoup. Je dirais grandement merci à tous ceux qui viennent de poser des questions. Je vais bien sûr commencer par Ben qui est à Bounia. Je voudrais dire que, de manière générale, la sécurisation du processus électoral relève de la compétence du gouvernement, ministère de l'Intérieur principalement, et comme service, la police nationale congolaise. Donc, c'est pas de la compétence de la CENI d'assurer la sécurité. Donc là, il faut que les uns et les autres sachent très bien que il existe un plan opérationnel de sécurisation du processus électoral. Le commissaire général à la police en est le numéro un. Et il existe à chaque niveau des comités de suivi au niveau local, au niveau provincial, au niveau national. Et nous souhaitons que chacun fasse son travail. Comme je le disais au départ, nous étions conscients des difficultés que certains de nos préposés allaient connaître sur terrain. Donc je ne suis pas surpris que ça vienne de l'Ituri. L'Ituri fait partie de 5 provinces pour lesquelles nous avons une attention particulière en termes d'insécurité. L'Ituri, le Nord, le Sud Kivu, le Maniema, le Tanganyika, ce sont les 5 provinces du pays où il se pose réellement un problème d'insécurité. Nous étions en train de monter un plan de sensibilisation, une campagne de sensibilisation pour la sécurisation du processus électoral. Nous allons le faire de manière un peu plus approfondie. Mais pour ce qui est de l'Ituri, nous avons eu une séance de travail avec les députés de l'Ituri. Il peut se rappeler que nous avons eu une séance de travail à la CENI et on leur a dit que nous avions besoin de leur accompagnement. Parce qu'en fait, nous, on ne connaît pas les réalités du terrain. Nous avions besoin de leur accompagnement. Donc bref, je voulais dire que chacun fasse un peu sa part de choses. La CENI prépare les élections parce que le pays lui donne mandat, la loi lui reconnaît le pouvoir organisateur des élections. La CENI s'investit pour que les élections se tiennent dans le délai constitutionnel, mais au même moment, il faut que les autres partenaires prennent conscience de leurs responsabilités. Comme on dit quelque part, que chacun fasse sa partition. Donc que la police nationale, les forces de sécurité fassent quelque chose. Si dans un coin, dans un groupement, il n'y a ni policiers, ni militaires, bon, comprenez très bien que c'est pas
un problème.
La compétence de la CENI. Mais il faudra que les concernés, en l'occurrence les politiciens, sachent très bien que cette donne-là peut perturber les choses en leur défaveur. C'est là que nous voulons que s'implique, parce que à la fin, ils sont bénéficiaires du travail que nous sommes en train de faire. S'ils ne s'impliquent pas maintenant, qu'ils ne viennent pas nous voir demain. Parce que plus d'une fois, nous avons attiré l'attention, principalement avec les députés de l'Ituri. Ils peuvent se rappeler la réunion que nous avons eue avec eux au siège de la CENI, sous la coordination de mon chef direct, M. Lessène. On a passé en revue tous ces problèmes-là. Tous ces problèmes. Nous sommes conscients qu'à Djougou, à Irumou, à Mambasa, il se pose des problèmes. Le seul territoire qui sont plus ou moins en paix, c'est Arou, c'est Mali. Mais partout ailleurs, nous sommes conscients qu'il y a des problèmes. Comme je viens de lire, à Irumou, à Mambasa, à Djougou principalement, nous savons que il y a des choses qui se passent là-bas. Un des préposés était pris en otage. Dieu merci, il avait été libéré par la suite. Donc, on est conscient de ça, de la même chose qu'il y en a un peu dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, avec tout ce qui se passe autour de dans le territoire de Fizi, Mwenga ou Uvira, que ça soit ce qui se passe dans le Tanganyika entre les Twa et les Bantous, ou d'autres miliciens qui sont là-bas. On est conscient de tout ça, mais on veut l'implication de tout le monde. Ou alors, on veut bien les élections et chacun fait sa part et nous allons. Ou on se dit, bon, écoutez, mettez au frigo les élections, le temps que la paix revienne. Mais nous sommes optimistes parce que nous devons arriver à assurer la suite des choses.
Bon, ben a parlé aussi des chefs de groupement qui attendent des enveloppes et qui attendent
non,
de l'argent.
Non, chacun pas, veut avoir non, de l'argent. Il a été prévu 70 dollars pour chaque chef de groupement. 70 dollars. Mais vous conviendrez avec moi qu'il n'y a qu'un seul chef de groupement. Si le chef de groupement se déplace et délègue quelqu'un d'autre, logiquement, il revient au chef de groupement de penser à la personne qui fait son intérim.
Mais non, le chef de groupement ne le fait pas.
Mais justement, c'est pas la CENI, parce qu'en fait, on ne peut pas connaître toutes les situations à travers le pays. Nous avons 5910 groupements, on ne peut pas, et puis c'est costaud. Prenez 5910 groupements multipliés par $70 que l'on donne à chaque chef de groupement pour qu'il facilite la tâche. Alors que, il est censé être payé par le gouvernement. Le travail qu'il fait, il le fait pour la République. Mais on veut le stimuler pour qu'il nous donne des informations. La CENI, c'est pas une histoire de la CENI seule. C'est une histoire de la République. Et l'argent que la CENI sort, c'est l'argent de la République, du trésor public, pour que les choses avancent. Donc, quand il a perçu les $110...
Et normalement, les chefs de groupement ne devaient pas exiger de l'argent.
Normalement, ils ne doivent pas exiger de l'argent parce qu'ils sont payés pour ça.
Oui.
Ils ne doivent pas exiger de l'argent. Mais la CENI stimule parce qu'en fait, nous voulons que les choses marchent correctement. Alors, nous demandons au chef de groupement d'assurer la sécurité de la personne qui vient. C'est tout à fait simple. Bon, écoutez, nous avons été dans nos groupements, on vous paye quelque chose à manger, tout ça. Bon, et puis au retour, on a des informations dont on a besoin. Et chacun trouve son compte là dedans. Maintenant, si le chef de groupement est empêché, il a laissé quelqu'un, que ça soit son fils, son beau-frère, on ne sait pas qui. Mais c'est à lui de dire, bon, moi j'ai perçu $70, je peux lui envoyer $10, $15, $20 pour le travail qu'il va faire après moi. Ce n'est pas forcément...
Et faciliter le travail
à la CENI. Bon, je vois Ben en train de lire un article du contrat. Je sais pas comment il l'a, parce qu'il dit qu'il n'a pas de copie, en fait. Mais il a lu quand même un article, je ne sais pas, ça lui vient d'où. Il a dit qu'il n'avait pas une copie du contrat, mais il l'a. Donc ça c'est... Bon, maintenant par rapport à Gaston, je voudrais pas toucher aux aspects juridiques. Je voudrais l'aider à comprendre. Je comprends, voilà pourquoi qu'on revient. S'il est congolais, intellectuel, qui suit l'actualité, il doit savoir que nous sommes partis de 311 communes à 620 communes. Il doit savoir qu'une commune est une circonscription. Et que quand on a créé de nouvelles communes, nous devons avoir des informations en termes de délimitation et en termes de centre d'inscription. Donc il faut actualiser, parce que c'était 311, maintenant nous sommes à 620 communes. Et chaque commune doit être répertoriée, inventoriée dans nos machines, dans notre base, pour que nous sachions servir cet espace-là, d'autant plus que chaque commune est une circonscription. Donc nous sommes obligés de faire cette actualisation-là. Il faut qu'ils sachent que les villages naissent et disparaissent. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des groupements de fait qui deviennent groupements de droit à un moment donné. Donc il faut que nous ayons toutes ces informations-là. C'est pas que l'on veut faire perdre le temps. Qu'il se renseigne bien, il saura bien que nous sommes en train de faire des choses tout à fait rationnelles pour que nous présentions à la nation des services de bonne qualité. Voilà.
Bien. Alors, on va accueillir. Et puis il a parlé des bagarres. Il peut survenir des échauffourées entre vos agents, les préposés et d'autres personnes.
Mais pourquoi il veut imputer ça à la CENI?
Je sais pas.
Mais pourquoi il veut imputer ça à la CENI? Je ne sais pas pourquoi. Le préposé a un ordre de mission.
Oui.
Ok. Il a une ligne de conduite qu'il doit observer. Et nous pensons que partout où nous passons, il y a la police qui est là, qui peut intervenir si jamais une infraction arrive. Enfin, un acte anormal arrive pour qu'on dise c'est une infraction ou pas. Et pourquoi ça doit être forcément à charge du préposé? Pourquoi est-ce que cette infraction doit forcément être à charge du préposé? Bon, s'il commet une infraction, pourquoi il ne pense qu'à une infraction dans le chef du préposé? Bon, je ne comprends pas tout ça. Bon, donc, je le laisse là, et bon, il est de son domaine. Moi, je parlais de ce qui me concerne et qui fait l'objet de ma présence ici, l'actualisation des cartographies opérationnelles.
On va accueillir Justin Kalabia de Bounia. Bonjour, Justin.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à notre invité du jour.
Merci beaucoup.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est celle-ci, monsieur Jody. Par rapport à la cartographie qui tend vers la fin, c'est une bonne chose. Et puis j'ai une inquiétude. Nous qui sommes dans la province de l'Ituri, parce que les choses ne vont pas bien. Pourquoi? Je me demande, lorsque les agents de la CENI, les gens qui font la collecte des données, ils vont terminé et ils ne sont pas venus par exemple en Djougou au Fefon, là où il y a les groupes armés, quel sera le bilan, quelle sera aussi la CENI, quelle sera la réaction de la CENI? Ça c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport à ce qui se passe au Kivu, hein, précisément dans le territoire de Nyiragongo et consort, et là où il y a les M23. Je pense que là où il y a la guerre, les agents de la CENI ne sont pas arrivés là. Et maintenant, comment sera la CENI pour qu'on ait aussi des précisions de ce qui se passe de là? Alors, c'est tout ça comme question et bonne journée, monsieur Jodin.
Merci. Moïse, vous êtes aussi à Bounia. Bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à l'invité.
On vous écoute, Moïse.
Oui, j'ai presque deux questions à poser à l'invité. La première question est de savoir pourquoi la CENI ne visite pas les églises fraternelles dans des groupements visités par les agents qui passent pour la cartographie. Et la seconde question, c'est pour savoir, la CENI visite les centres de santé pour peut-être dans les jours à venir, peut-être les centres de vote, je ne sais, les bureaux de vote. Maintenant, avec les malades, comment que la CENI a prévu ou a pris la situation, puisque préparer les centres de vote, de l'autre côté, les infirmiers préparent les lieux pour les malades. Comment est-ce que la CENI
bien, merci beaucoup Moïse pour votre préoccupation. Monsieur Joseph Senda, vous avez la parole.
Bon, merci beaucoup. Bon, je reviens encore sur ce que j'avais dit. Nous sommes conscients qu'il y a des problèmes dans cette partie du pays. Il y a des espaces qui sont occupés par les groupes armés. Nous avons réussi à négocier avec certains d'entre eux pour qu'ils acceptent que les préposés arrivent là-bas et qu'ils fassent leur travail. Nous souhaitons qu'il en soit ainsi partout. Jusque-là, on ne m'a pas dit qu'il y avait un espace où les groupes armés avaient carrément refusé de recevoir des préposés. Donc, nulle part jusque-là. Nous savons qu'il y a des endroits très difficiles, mais nos collègues qui gèrent et les antennes et les provinces que nous appelons les CEP, dans leur grande majorité, ils ont réussi à obtenir que les préposés travaillent dans les espaces occupés par les groupes armés. Donc ça, je peux le dire maintenant. Maintenant, ce qui peut venir après, s'il y a un désagrément, il est difficile que je dise à ce stade qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut en évaluer l'ampleur, il faut en évaluer la situation exacte pour qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Évidemment, au-dessus de moi, directeur d'opération, il y a les autorités plus compétentes et plus élevées que moi, qui poseront ce problème à qui de droit, à l'occurrence, au gouvernement de la République, au ministère de l'Intérieur, pour qu'on trouve solution si jamais il y a une situation assez désagréable qui se serait produite ou qui viendrait du fait qu'il y a des groupes armés quelque part. Donc, à mon niveau, je ne sais pas donner une réponse, mais je peux dire que nos collègues, aussi bien au niveau des antennes qu'au niveau des CEP, ils ont réussi à négocier avec les responsables des groupes armés. Je sais que nos préposés ont travaillé avec Codeco, je le sais, parce que j'ai eu des informations à ce sujet. Ils travaillent là-bas. Et partout ailleurs, on a réussi.
Il y a plusieurs groupes armés là-bas, Codeco, FRPI.
Bon, les endroits les plus compliqués, c'est Mambasa. Les gens sont arrivés à Mambasa, ils sont en train de travailler à Mambasa.
D'accord.
Le compliqué, Djougou, ils sont à Djougou en train de travailler. Même à Irumu, ils sont en train de travailler aujourd'hui. Bon, le Nord Kivu aussi, nous n'avons pas reçu d'écho qui nous dirait par exemple qu'on n'a pas réussi à entrer dans tel espace. Au contraire, on a réussi à négocier pour qu'on accepte les préposés et qu'ils fassent leur travail. Parce qu'après tout, les élections, c'est l'affaire de tout le monde.
On n'a pas intérêt
à bloquer qu'on ne puisse pas faire son travail dans un coin donné, dans une province, dans un groupement, dans une chefferie ou je ne sais pas, dans un village donné, qu'on ne soit pas en mesure d'aller travailler. Donc, je crois que par rapport à ça, il n'y a pas de problème. La loi interdit à la CENI d'ériger des centres d'inscription dans certains endroits, notamment les églises. Donc on ne peut pas aller vers les églises. Si je vais vers une église musulmane, eh bien les catholiques et les autres, les chrétiens diront on ne peut pas aller là-bas. L'inverse aussi, si j'ouvre un centre d'inscription dans une église catholique ou chrétienne, les musulmans risquent de ne pas venir. Donc la loi ne nous autorise pas à aller vers les églises, notamment. Il y a autre chose, il y a aussi d'autres endroits où on ne peut pas aller, mais c'est la loi qui nous interdit d'aller là-bas justement pour que ça ne soit pas un obstacle à certains électeurs d'aller chercher leur carte. Alors maintenant,
mais dans la sensibilisation, on peut les impliquer. Les leaders religieux peuvent être impliqués dans la sensibilisation.
Bon, pour demander aux gens d'aller voter, oui. Ça, ce n'est pas un problème. Mais qu'ils hébergent un centre d'inscription chez eux, là, ça pose problème. Qui demande à tout le monde d'aller se faire enrôler en vue de voter, là il n'y a pas de problème. Alors nous allons vers les centres de santé là où il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'école, il y a un centre de santé, nous allons là-bas. On ne va pas occuper tous les locaux du centre de santé. Il y aura un local qu'on va mettre à nos dispositions et nous allons travailler. Donc on ne va pas pénaliser tous les malades qui viennent là-bas, parce que nous aurons pris, nous aurons occupé tous les bâtiments du centre de santé. On nous accorde un local et c'est là que nous allons travailler. Si jamais il arrive que nous soyons portés à recourir à un centre de santé pour faire le travail.
Bien, les proposés qui ont été déployés, donc il leur reste combien de temps pour
comme je le dis, demain se termine l'opération ou de cartographie. C'est demain la fin. Mais comme je le disais, il y en a qui ont déjà terminé, il y en a qui sont en cours de collecte et il y en a qui sont vers la fin. Donc nous commençons à recueillir les remontées à partir de demain. Donc j'imagine que ceux qui ont commencé le 28, ou alors, s'il n'y a pas un travail important, volumineux, ils peuvent déjà demain terminer, sinon le jour suivant, etc. Mais je ne pense pas que nous pourrions aller au-delà du 15 juillet. Donc à partir de demain, nous marquons le début de la fin de la collecte de données sur la cartographie.
Ceux qui vont traîner le pied, bon, ils vont peut-être bénéficier des quelques jours de plus.
Non, en principe, c'est 30 jours. Il faut qu'ils sachent que ils ont signé un contrat, ils ont un montant prévu pour un temps donné. Donc, il faut qu'ils terminent à temps et qu'ils commencent à remonter déjà vers les antennes pour déposer toutes les données qu'ils ont eues sur terrain. Il ne faut pas qu'ils les gardent avec eux parce que tout peut arriver. Hein. On a connu des gens et on a connu des gens qui se sont noyés quelque part. Mmh. Bon, Dieu merci, on a récupéré les smartphones, mais il y a des endroits où on a perdu les smartphones parce qu'ils s'est noyé, tout ça, etc. On a connu beaucoup de choses, des accidents, même des décès. On a connu ça, mais c'est très infime par rapport aux 9000 que nous avons déployés sur terrain.
Bien, on va accueillir Étienne depuis Mahagi. Bonjour Étienne.
Bonjour Jordi Daniel Kachama. Bonjour à l'invité Joseph Sendakit avec vos plateaux.
Merci beaucoup. Les auditeurs. Merci.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Merci beaucoup. Monsieur l'invité, j'ai deux petits soucis à vous poser. La première dit ceci. Monsieur l'invité, quelle différence y a-t-il entre l'actuelle cartographie et celle des échéances électorales qui étaient passées? Est-ce que l'ancienne cartographie avait eu une irrégularité ou comment? Je voulais un peu que vous puissiez m'éclairer sur cette question. La deuxième, concernant cette cartographie, monsieur le président, est-ce que les sites qui seront destinés pour l'enrôlement des citoyens, elles seront-elles multipliées, revues à la hausse par rapport aux échéances des années précédentes? Voilà ma petite des questions et merci, bonne continuité.
Bien, merci Étienne. Monsieur Joseph, à vous la parole.
Bon, en fait, je crois que depuis le début, nous avançons les raisons pour lesquelles nous avons été portés à actualiser la cartographie. Eh bien, comme nous le disons, nous sommes à la fin du mois de juillet 2016, nous commençons notre révision des fichiers électoraux dans le nord Ubangi. Nous terminons au mois de janvier 2018 dans les Kasaï Tchikapa. 2016-2022, 6 ans se sont écoulés. Qu'est-ce qui nous garantit que la même école que nous avons reçue quelque part dans le nord Ubangi est encore viable pour nous recevoir aujourd'hui? Rien ne nous garantit sinon d'aller sur place et voir l'état dans lequel se trouve cette école-là. Ça, c'est une des raisons. Une autre raison, nous avons des groupements de fait qui deviennent groupements de droit entre deux périodes données. Si nous n'allons pas sur place, eh bien ces groupements, hier de fait devenus de droit aujourd'hui, nous n'en tiendrons jamais compte dans l'organisation des élections en vue d'obtenir les élus qui siègent aux organes délibérants des secteurs et chefferies. Donc nous devons pouvoir tenir compte des groupements de fait hier qui sont devenus groupements de droit aujourd'hui. C'est le ministère de l'Intérieur qui donne statut de groupement de droit à des groupements. C'est pas la CENI, mais la CENI est obligée de tenir compte d'un groupement, d'intégrer dans sa planification un groupement devenu groupement de droit. Il faut que nous ayons des informations par rapport à ça. À ce moment-ci, il y a des groupements de fait qui existent, mais on ne s'en occupe pas parce qu'ils n'ont pas des statuts juridiques, ils n'ont pas des reconnaissances juridiques pour bénéficier des services de la CENI. Ils sont certainement inclus dans d'autres groupements de droit, mais quand ils vont sortir de ce groupement des droits pour devenir de groupement des droits aussi, il faut que nous les considérions comme tels. Donc ça, c'est un élément qui affecte la cartographie. Il y a le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il n'a jamais vécu en milieu rural, les villages naissent et disparaissent. Donc nous devons avoir une cartographie justement des villages parce que les villages abritent des électeurs. Donc il faut que nous sachions ces villages-là sont-ils éloignés ou non d'un centre d'inscription. Ces électeurs-là mettront combien de temps pour arriver au centre d'inscription? Donc nous sommes obligés d'aller inventorier, d'aller répertorier, d'aller géolocaliser ces villages pour que nous nous rassurions que nous avons garanti un accès facile à nos services. Donc il faut bien que nous connaissions tous ces endroits-là. La dynamique de choses fait que nous soyons obligés de chaque fois revisiter la cartographie pour être sûr que nous sommes en harmonie avec la réalité.
Ce n'est pas une perte de temps, comme l'a dit Maître Gaston, et puis des dépenses inutiles d'après lui.
Bon, ça dépend de ce qu'il appelle des dépenses inutiles, hein, mais les élections coûtent cher. Et on ne le fait pas pour le plaisir de le faire. Si on ne le fait pas, comment saurais-je qu'une école qui m'a accueilli en 2016 dans le nord au Bangui peut m'accueillir aujourd'hui? Comment je peux le savoir si je ne vais pas sur terrain? Parce que les pluies emportent nos écoles. Donc il faut que j'assure terrain pour me rassurer. Et dans l'entretien, il y a aussi de nouvelles écoles qui naissent. Nous recevons des demandes d'hébergement de nos centres d'inscription par des responsables d'établissement. Donc nous sommes obligés de nous rassurer. J'ai pris l'exemple du Nord au Bangui, mais c'est 26 provinces, c'est 145 territoires, c'est 34 villes, c'est beaucoup d'entités. Donc il faut devoir avoir la situation de chaque entité en ce qui concerne sa capacité à recevoir les installations de la CENI pour la délivrance des cartes d'électeurs. Donc les choses bougent et cela nous oblige à actualiser la cartographie pour être sûr que nous avons les données réelles, les données du moment pour nous permettre une bonne planification des choses.
Bien, donc on retient que cette opération touche déjà à sa fin.
Début de la fin, c'est à partir de demain 9 juillet.
Et puis vous allez faire le
Nous allons consolider, nous allons centraliser pour sortir les outputs dont nous avons besoin. Comme je l'ai dit, le répertoire de centres d'inscription et puis les différentes cartes thématiques pour nous permettre de visualiser les choses même à distance. Donc à partir de mon bureau, on me parle d'un centre d'inscription qui est dans les fins fonds de l'Ubao. Je peux facilement voir. Il est dans les fins fonds d'Idjui, de Lukolela, de Bikoro. Je peux voir la situation à partir de mon bureau. Voilà ce que nous voulons, entre autres.
Et ces informations-là, est-ce que ça sera à la disposition du grand public ou de la CENI seulement pour bien préparer les opérations?
Non, dans les cas des concertations, on portera la connaissance des opérateurs politiques principalement. Les répertoires des centres d'inscription, les cartographies, parce qu'il faut qu'ils sachent comment se répartissent les choses dans leur circonscription. Donc on va porter à la connaissance des opérateurs politiques dans le cadre des cadres de concertation.
Bien, nous parlons aujourd'hui de l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles de la CENI. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations. Le standard est ouvert, composez les 081 890 63 94.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Capi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Capi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
Comment se déroule l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles de la CENI? Eh bien, c'est une opération qui permet de recueillir les informations pour savoir où est-ce qu'on va installer les centres, là où les gens iront pour s'enrôler, etc., pour voter. Donc, la CENI est en train de répertorier, donc refaire cet exercice-là. Et c'est demain déjà que cette opération va prendre fin. Et puis, ce sera la compilation et les résultats. Et puis, la CENI va publier la nouvelle cartographie. Alors, juste après cette opération, ce sera alors l'enrôlement des électeurs.
Oui, l'enrôlement des électeurs. Je ne veux pas aller dans ce sens-là, mais je sais qu'il y a déjà une activité aujourd'hui par rapport à l'appel d'offres qui a été lancé. Il y en a une activité aujourd'hui. Il y aura une activité, je crois, le vendredi prochain. Mais d'ici là, nous allons devoir entrer en coopération avec ceux qui vont devoir nous fournir les kits d'enrôlement, les kits bureautiques, pour que, à la date indiquée dans notre feuille de route, nous puissions commencer l'enrôlement des électeurs. L'enrôlement se fera sur trois aires opérationnelles. Il y a une première aire qui comprend 9 provinces, une deuxième aire 9 provinces, une troisième aire 8 provinces pour faire les 26 provinces. Nous allons le faire, je crois, en ayant au maximum 3 mois, alors que d'habitude, ça nous demandait un peu plus que ça, parce qu'il y aura chevauchement des aires opérationnelles. Mmh. Il y aura un temps sensiblement réduit entre début d'une aire et début de l'aire suivante. Et nous nous proposons également d'enrôler des Congolais résidant à l'étranger, ce qu'on appelle communément la diaspora.
Alors, si prenons un exemple dans un groupement, il y a 2, 3, 4, 5 écoles en même temps qui sollicitent que leurs écoles puissent servir de centre. Comment vous faites à ce moment-là?
Bon, j'imagine que parmi elles, il y a une qui est meilleure en termes d'infrastructure, du point de vue de la sécurité. J'imagine qu'il y en a une qui habiterait un village populeux. J'imagine qu'il y en a une qui habite un village qui n'est pas en conflit avec beaucoup d'autres villages, ok, parce que ça risque de poser problème. Donc, il y a des éléments qui vont faire que nous choisissions une école en lieu place des autres. Donc, il y a d'abord la viabilité de l'école en termes de la sécurité qu'elle peut nous offrir. Il y a sa situation géospatiale dans le groupement. Il faut que ça soit un bon endroit où les gens peuvent facilement venir. Nous souhaitons que ce soit une école d'un village populeux, parce que là déjà nous avons beaucoup d'électeurs qui vont venir.
Oui.
Donc il y aura certainement une école qui répondra à nos critères et qui sera retenue à lieu et place des autres écoles. Mais évidemment, ça dépend du nombre de CI que doit accueillir un groupement.
Est-ce que ces écoles-là ne vont pas aussi vous demander de payer?
Non, nous convenons que certains enseignants de ces écoles soient membres de centres d'inscription.
D'accord.
En compensation du fait qu'ils nous accueillent.
On va accueillir Alfred Mike de Mouika. Bonjour Alfred.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Et ma préoccupation est celle-ci, monsieur le journaliste. Quels sont les critères de centralité des comptes? Et pour que celui qu'on a envoyé pour la cartographie puisse augmenter le nombre de centres de CI, comme ils l'appellent là. Parce que ici, on a vu certains proposés qui sont envoyés, il y en a qui, délibérément, je ne sais pas entre guillemets, ont augmenté le nombre de centres d'inscription. Il y en a même qui ont diminué. Donc, c'est de 1, 2, 2. Et il arrive le point où on trouve des problèmes dans un groupement où il y a 2 ou 3 chefs de groupement qui se disputent les trônes. Comment faire afin qu'on puisse terminer de 3? Si conflit il y a, parce que je termine par là, parce que nous avons réceptionné chef de groupement dans le groupe, je ne sais pas si c'est le groupement Lombelo, qui a demandé si on a, au lieu d'augmenter le nombre de centres, on a par contre réduit. Qu'est-ce qui serait à la base de tout ça? Et comment est-ce que, si je voudrais qu'on puisse traiter son problème, comment peut-il procéder? C'était ça ma préoccupation, monsieur le journaliste.
Bien, merci Alfred. Monsieur Joseph.
Merci beaucoup, monsieur Mike. Le préposé rencontre le chef de groupement. S'il y a un conflit entre chef de groupement, le panel qui siège au niveau du territoire de Mouika comprend entre autres l'administrateur de territoire. C'est celui-là qui va trancher et nous dire avec qui des chefs de groupement en conflit il faut travailler. C'est pas le travail du préposé. C'est pour cela que dans le panel de vérification et de contrôle des données installé au niveau de Mouika, l'administrateur de territoire en fait partie comme personne et ressource pour nous permettre de résoudre ces problèmes qui relèvent de la compétence du ministère de l'Intérieur et non pas de la CENI. Donc voilà déjà une piste de solution s'il y a jamais il y a des conflits d'autorité par rapport à la direction d'un groupement. Le préposé n'a pas mandat ni de supprimer ni d'augmenter le nombre de centres d'inscription. Le préposé recueille des informations auprès du chef de groupement. C'est ce dernier qui exprime un besoin éventuel et qui motive sa demande. C'est pas les préposés qui peuvent faire ça. Bien sûr, il n'est pas facile qu'il y ait des brebis galeuses à gauche, à droite, mais nous sommes en mesure de détecter, je ne peux pas dire comment nous pourrions détecter, mais nous voulons dire tout simplement que c'est de la compétence du chef de groupement d'exprimer un besoin et de surtout motiver pourquoi il veut qu'on ajoute un ou deux centres d'inscription. Donc ce n'est pas au préposé de le faire. Si un préposé le fait, il faut, c'est une faute qu'il commet. Je ne te demande pas de lui couper la tête, mais l'information, c'est celle-là. C'est le chef de groupement qui exprime un besoin et qui motive le besoin. Et tout ça est couché dans un procès verbal. C'est couché dans un procès verbal. Nous allons étudier la pertinence de sa demande. Le préposé va prélever les données géospatiales de toutes les écoles. Ça nous permettra de voir quelles sont les écoles qui occupent une bonne position de manière à faciliter un accès facile, un accès de équitable de tous les électeurs à un centre d'inscription donné. Voilà.
Bien, voilà, c'est comme... Donc, le proposé n'a pas le droit d'augmenter
ni de diminuer. Il n'a pas le droit d'augmenter ni diminuer le nombre de centres d'inscription.
Ouais. Alors, les fraudeurs seront facilement détectés.
Bon, nous savons comment nous pouvons les détecter.
Bien, Monsieur Joseph Senda, directeur adjoint, directeur des opérations à la CENI, merci d'avoir répondu à notre invitation et excellente journée et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie, Monsieur Jody.